Chapitre 8. Où Théophraste manque un brochet de 4 livres et apprend sur son compte des histoires qu'il ne soupçonnait pas. Le lendemain de ce jour, Théophraste et Marceline regagnaient les joies calmes de la villa Flot d'Azur. Théophraste ne disait mot et Marceline n'avait garde de l'interroger. Marceline ne savait rien encore de l'épouvantable malheur. Une consternation parfaite était répandue sur les traits de Théophraste. Quelquefois, des larmes plissaient ses bons yeux sans qu'il donnât à son épouse la raison de cet apitoiement humide. Adolphe devait les venir rejoindre dans les 48 heures. 2 jours se passèrent fort tristes à la villa. Marceline vaquait aux soins du ménage et Théophraste préparait en silence ses engins de pêche. Mais comme un soleil joyeux se leva sur la 3e journée, Théophraste, qui avait passé une bonne nuit, montra un visage reposé, un regard moins inquiet et un commencement de sourire. Par le train de 11h46, M. Adolphe Le Camus descendait à la gare des Blis. Il fut reçu avec transport et l'on se mit à table. On en sortit de cette table à 2 heures seulement. Marceline, profitant de ce que l'on était entre soi, avait dégagé un peu sa chemisette, exhibant sans contrainte un commencement de gorge houleuse et rose. Théophraste faisait prévoir avec une grande abondance de détails à son ami Adolphe les joies d'un après-midi de pêche passionnée. Monsieur Le Camus ne disait rien, mais prenait pour la 3e fois d'un certain curaçao qu'il appréciait au-dessus de sa valeur. Théophraste chargea des lignes, gaules, amorces, boulettes d'argile et de sang de porc qui s'arrondissaient au fond d'un seau d'étain. Adolphe prit l'épuisette et la boîte d'asticots. Ils embrassèrent Marceline et descendirent doucement vers la Marne. « J'ai préparé ton coup, disait Théophraste, tu m'en diras des nouvelles. Moi, pendant que tu pêcheras, je t'écouterai en m'amusant avec mes verrons. J'en ai une pleine boutique qui dort là-bas, sous les herbes et les nénuphars. Je taquinerai la perchette, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui, en t'écoutant. » Adolphe était redevenu muet. Quand ils furent sur la rive, Théophraste déposa tous ses engins, et pendant que son ami examinait un hameçon, il lui dit « Eh bien ?»« Eh bien, » répondit Adolphe, « il y a du bon et du mauvais. Mais je dois te dire qu'il y a plus de mauvais que de bon. Sans doute on a inventé bien des histoires sur ton compte, mais la vérité vraie n'est point tout à fait ragoûtante. T'es-tu bien renseigné ?» Théophraste, depuis la scène de la rue Guénégo, tutoyait Adolphe. Le formidable secret les avait encore rapprochés. « Je suis allé aux sources, j'ai vu les pièces authentiques. Je vais te dire ce que je sais. Si je me trompe, tu m'avertiras. » Théophraste jeta la boulette de glaise dans la Marne et dit « Va toujours, il faut bien que je me fasse une raison. » « D'abord, fit Adolphe, tu es né au mois d'octobre 1693 et tu t'appelles Louis-Dominique Cartouche. »« Oh, c'est inutile !» interrompit Théophraste en tirant à lui sa boutique pleine de verrons. « C'est inutile de crier que je m'appelle Cartouche. Personne n'a besoin de le savoir. Dans le pays, tu les connais, ils en feraient des gorges chaudes. Appelle-moi l'enfant. » « J'aime mieux cela et nul ne comprendra. »« Mais tu sais que Cartouche est ton vrai nom. Ce n'est pas un nom de guerre, » insista Adolphe. « Passons, oui, passons, mais c'est un vilain nom. »« On a raconté que tu as fait de solides études au collège de Clermont et que tu fus le condisciple de Voltaire. Mais c'est une légende, attendu que si tu ne sus lire par la suite, grâce à des bohémiens qui t'enseignèrent la lecture, tu ne sus jamais écrire. »« Ah, eh bien, elle est raide !» s'écria Théophraste. Tu savais écrire? Parbleu, si j'avais pas su écrire, comment aurais-je rédigé le document dans le cachot de la conciergerie? Ah oui, c'est vrai. Lors de ton procès. J'ai donc eu un procès? Oh, et un fameux! Lors de ton procès, tu as déclaré ne pas savoir écrire. Tu signais les dépositions d'une croix et tu n'as jamais écrit une ligne à qui que ce fût. Parce qu'il ne faut jamais écrire, répondit Théophraste. Dans ma situation, je devais redouter de me compromettre. Mais le document est là. Évidemment. Bon, revenons à tes 11 ans. Un jour, tu vas avec des camarades à la foire Saint-Laurent. Ah, dis donc, Adolphe, tu pourrais pas t'exprimer autrement. Tu me dis, tu vas avec des camarades à la foire Saint-Laurent. Tu es né en 1698. Tu étais un mauvais garnement. Après tout, je veux bien avoir été cap. Il ne se rattrape pas. L'enfant, mais je suis aussi Théophraste Longuet. Et je sais bien que Théophraste Longuet n'est qu'à moitié flatté de tout ce que tu lui racontes sur l'enfant. À chacun sa part. Je te serais reconnaissant de dire l'enfant s'en alla avec des camarades à la foire Saint-Laurent. C'est trop juste. Donc à la foire Saint-Laurent, le petit cartouche, donc, l'enfant. Ah non, tu ne te le plais pas encore, l'enfant. On t'a appelé l'enfant que lorsque tu as été un homme. Eh bien, dis-je, pas moi, le petit Louis-Dominique. Louis-Dominique tomba dans une troupe de bohémiens. Ce qui prouve, fit Théophraste, que les parents ont toujours tort de laisser aller à la foire les enfants tout seuls. Les bohémiens l'emmenèrent. Ils le volèrent. Le petit Louis-Dominique était à plaindre, s'apitoya Théophraste. Est-ce qu'on le plaint dans les livres? Bon, non, on dit qu'ils se laissent voler de bonne grâce. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? S'écria Théophraste. Les bohémiens lui apprirent le jeu du bâton et de l'épée, à tirer au pistolet, à sauter sur les toits, à escamoter, à faire la roue, à faire le saut périlleux en avant et en arrière. Oui, toutes choses utiles. À vider les poches des bourgeois et gentilshommes sans que ceux-ci s'en aperçussent. À 12 ans, c'était un gentil garçon. Il n'avait pas son pareil pour apporter mouchoir, tabatière, montre et nœud d'épée. « Oh, ça, dit Théophraste, ça, c'est pas bien. S'il n'y avait que ça, s'écria Adolphe. Quoi donc encore? Attends, prends patience, courage et patience. » Il t'en faudra. La troupe de bohémiens se trouvait à Rouen quand le petit Louis-Dominique tomba malade. Oh, le pauvre petit, il n'était pas fait pour une pareille existence. Il entra à l'hôpital de Rouen. C'est là que son oncle, un frère de son père, le découvrit. Il le reconnut, il poussa un cri de joie, l'embrassa et jura de le ramener à ses parents. Ah, le brave homme donc, mais Louis-Dominique était sauvé. Impatienté, M. Le Camus se tourna vers Théophraste et le pria de cesser ses interruptions continuelles, affirmant qu'il mettrait 10 ans à lui raconter l'histoire de Cartouche s'il ne voulait se résoudre à écouter en silence. « T'es bon, toi, fit Théophraste, je voudrais bien te voir à ma place. Enfin, je te promets de faire ce que tu voudras. Mais avant tout autre détail, dis-moi si ce cartouche était aussi redoutable qu'on l'a raconté. Était-ce un chef de brigands? Oui. De beaucoup de brigands? À Paris seulement, tu commandais à 3 000 hommes. 3 000, diable, c'est un chiffre. Tu avais plus de 50 lieutenants. Il y avait toujours, de par la ville, 20 hommes vêtus exactement comme toi, en habit cannelle, doublé de soie amarante, exhibant un morceau de taffetas noir au-dessus de l'œil gauche pour dépister la police. « Oh oh !» s'exclama Théophraste avec un accent d'orgueil dont il ne fut pas le maître. « C'était une maison importante. » On a relevé contre toi plus de 150 assassinats personnels. Je dois faire remarquer que Théophraste pêchait la perchette au Véron depuis plus d'une heure, sans que rien n'eût pu jusqu'alors lui faire soupçonner l'existence dans les eaux de la Marne d'un poisson quelconque, amateur de son vivant appât. Soudain, le bouchon que le Véron promenait parmi les cœurs verts des nénuphars, sans hâte bien qu'avec inquiétude, sembla frappé de vertige. Il fit un saut sur l'eau et plongea. Mais il plongea avec une telle rapidité inattendue, il disparut dans le gouffre humide avec une précipitation si définitive qu'il entraîna avec lui tout le fil qui le reliait à la Gaule, qui le reliait à la main de Théophraste. Et le malheur fut que, après avoir entraîné à sa suite tout le fil, il entraîna toute la Gaule, de telle sorte qu'il ne fut plus relié du tout à la main restée entrouverte de Théophraste. Dans la circonstance, il ne pouvait plus être question de perchette, ni même de perche. Un tel exploit contre le pêcheur devait être mis sur le compte d'un bêtet exceptionnel, comme par exemple d'un brochet, et encore fallait-il que ce brochet fût de taille. Cet événement se produisit dans le moment que M. Lecanu apprenait à M. Longuet qu'on avait relevé contre lui, lors du procès qui lui fut intenté, il y a de cela 2 siècles à peu près, plus de 150 assassinats personnels. Théophraste eut aussitôt un geste de désespoir et s'écria « Oh, le cochon !» De telle sorte qu'il eût été bien difficile de dire si cette injure exceptionnelle dans la bouche de Théophraste s'adressait à l'assassin de jadis ou au bêtet d'aujourd'hui. Cependant, Théophraste ajouta « Il devait bien peser 4 livres !» Et en vérité, il avait des larmes dans les yeux. Tout compte fait, Théophraste semblait regretter davantage son brochet que ses 150 assassinats. Chapitre 9. Le masque de cire. Adolphe et Théophraste n'attendirent point le déclin du jour pour regagner la villa Flot d'Azur. Brinquebalant leur maigre butin dans le filet où luisaient les écailles humides de 2 gardons, d'un chevesne et d'un petit otu, balançant d'un bras dolant leur boutique et l'une de leurs 4 épaules chargée du dernier roseau flexible qui leur restait, ils quittèrent la rive et s'enfuirent vers le coteau. Avant d'y atteindre, ils résolurent de retremper leur cœur en un sérieux apéritif à la porte de l'aubergiste Lopard, cependant que la diligence de Crécy arrêterait à leurs pieds le balancement tumultueux de son antique ferraille. Le sucre détrempé savamment fondait à travers la pelle d'acier et se mêlait en gouttes onctueuses à la liqueur verte, quand Adolphe reprit l'histoire de l'enfant au point où il l'avait laissé. Ce bon oncle, dit-il, avait le sentiment de la famille. Il arracha le petit cartouche à son misérable sort, lui fit quitter l'hôpital de Rouen et le rendit à ses parents. Il eut fait rue du Pont aux Choux. C'est là, en effet, au numéro 9 de la rue du Pont aux Choux, qu'était né Cartouche et que son père exerçait son métier de tonnelier. Louis-Dominique, instruit par ses jeunes malheurs, jura qu'il n'y aurait désormais dans Paris fils plus respectueux, apprenti plus ardent au travail. Il aida son bonhomme de père à fabriquer ses tonneaux, et c'était plaisir de le voir manœuvrer dès l'aurore le marteau et la doloire. Il semblait prendre à tâche le faire oublier sa triste équipée. Les quelques mois qu'il avait passés dans la compagnie des bohémiens lui avaient été très utiles en ce qui lui avait donné le science de quelques arts d'agrément. Et à l'heure du goûter, il amusait ses compagnons par de jolis tours de passe-passe, et quand venaient les jours de fête, c'était à qui inviterait, pour le dîner ou pour le souper, la famille du petit Cartouche, car on se promettait la réjouissance de l'adresse des facéties des singeries et grimaces de Louis-Dominique. Il eut un grand succès dans le quartier et sa renommée naissante lui donna de l'orgueil. Sur ses entrefaites, il atteignit cet âge heureux où le moins sensible des humains sent battre son cœur et s'éveiller en lui les sentiments les plus tendres. Louis-Dominique aima. L'objet de ses amours était charmant. C'était une lingère de la rue Portefoin. Elle avait les yeux bleus, les cheveux dorés, la taille fine. Et ma foi, elle était fort coquette. « Mais tout ceci est très bien !» interrompit Théophraste. « Et n'est de notre point une méchante nature, il est incompréhensible qu'il ait si mal tourné. » J'ai dit, continua Adolphe, que cette lingère était coquette. Elle aimait la toilette, les bijoux, les dentelles. Elle voulait éclipser ses compagnes. Bientôt, le gain modeste de Louis-Dominique ne suffit plus à payer les fantaisies de la petite lingère de la rue Portefoin. Alors Cartouche vola son père. Oh, les femmes ! S'exclama Théophraste en fermant les poings. Oh, tu oublies, mon ami, fit observer Adolphe, que tu possèdes, toi, une femme qui ne t'a donné que de la joie et de l'orgueil. Oui, c'est vrai, pardonne-moi, Adolphe, mais tu sais que je m'intéresse aux aventures de l'enfant, comme si elles étaient les miennes, et que je ne puis que regretter de le voir si gravement se compromettre pour une lingère de la rue Portefoin. Il vola donc son père, et celui-ci ne tarda pas à s'en apercevoir. Le père de Cartouche prit une grande résolution. Il obtint un ordre du roi, qui était une lettre de cachet, par lequel il pouvait faire entrer son fils dans le couvent des Lazaristes du faubourg Saint-Denis, maison de correction. « Voilà bien les parents, » dit Théophraste. « Au lieu de combattre par la douceur les mauvais penchants de leurs enfants, ils les désespèrent par des incarcérations funestes, où ils ne rencontrent que mauvais exemples et où le sentiment de la révolte fermente, grandit, bouillonne, étouffe tout autre sentiment dans leur âme neuve et prime sautière. Je parie que si on n'avait pas mis Louis-Dominique dans une maison de correction, tout ça ne serait pas arrivé. » Rassure-toi, Théophraste, Cartouche ne fut pas enfermé au couvent des Lazaristes. Comment cela ? Voici. Son père ne lui avait pas fait part de la découverte qu'il venait de faire de sa rapine. Louis-Dominique n'avait donc aucun soupçon. Un dimanche matin, Cartouche père dit à Cartouche fils de venir faire avec lui un petit tour de promenade. Dominique, charmé, le suivit. Il était de bien belle humeur, avait revêtu ses plus beaux habits, et escomptait déjà, en son esprit ardent, les joies de la soirée qu'il devait passer non loin de la rue Portefoin. « Où allons-nous, mon père ? » dit-il. « Eh bien, mais nous promener, mon fils. »« Où ça ? » ?»« Mais n'importe où, du côté du faubourg Saint-Denis. » Louis-Dominique commença à dresser l'oreille. Il savait qu'au bout du faubourg Saint-Denis, il y avait des lazaristes, et il savait aussi qu'aux lazaristes, les pères, quelquefois, y conduisaient leurs enfants. Il ne marqua aucune méchante humeur, mais il se défia, car il n'avait point la conscience tranquille. Quand ils arrivèrent au coin de la rue du faubourg Saint-Denis et de la rue de Paradis, et que se dressèrent devant eux les bâtiments de Saint-Lazare, il sembla à Louis-Dominique que son père avait un air qui manquait de naturel, et le quartier lui déplut instantanément. Il dit donc à son père de continuer son chemin doucement, sans se presser, car il était, lui, dans la nécessité de s'arrêter au coin d'un mur, ce coin existe toujours, pour faire pipi. Quand le père se retourna, l'enfant avait disparu. Il ne devait plus le revoir. Théophraste avala une gorgée de son apéritif, claqua des lèvres, les essuya de son mouchoir et dit « Eh ben, c'est bien fait, à sa place, j'en aurais fait autant. »« Malheureux !» s'écria Adolphe, « mais tu y étais à sa place !» « Oh, c'est vrai, oui, il faut pas l'oublier !» soupira Théophraste. Il eut un grand remue-ménage dans la rue d'Esblis. La diligence ayant pris les voyageurs à la gare, s'arrêtait devant l'auberge de Monsieur Lopard. Poulain faisait claquer son fouet à assouvir ses chevaux. Sur l'impériale, Théophraste reconnut Monsieur Bache, Monsieur et Madame Trône. Il leur fit les signes auxquels ils ne répondirent point. Il les appela par leur nom et ils restèrent muets. Théophraste en fut atterré. « Mais ils ne me connaissent plus, pensait-il, parce qu'ils se douteraient de quelque chose. » Poulain cria « Hu !» fit encore claquer son fouet et la diligence, zigzagant au travers de la route et soulevant la poussière, prit le chemin de Condé. As-tu vu, mais ils nous ont même pas salués. Mais ça ne m'étonne point, c'est depuis le dîner de l'autre jour. Je me demande ce qu'ils ont bien pu penser, dit Adolphe. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé de si extraordinaire? Demanda innocemment Théophraste. Ben, tu es monté sur la table pour chanter une chanson en argot. Et il y avait là des demoiselles, la petite demoiselle Trude et la vieille mademoiselle Taburet. Oh, le sale bourgeois, c'est bien borné tout de même. Maintenant, je comprends l'attitude de Madame Bache, qui a fait celle qui ne me connaissait pas avant-hier chez Paris, le pharmacien de Crécy, à qui elle était venue demander de la térébenthine en capsule pour chien qui n'urine pas. Bon, moi, je suis au-dessus de ces gens-là. Continue, Adolphe. Alors, quand j'eus quitté mon père, qu'est-ce qui arriva-t-il de moi? Bien, tu t'en fus dans une maison borgne de l'autre côté de l'eau. Ta gentille mine te fit bien voir des clients des trois entonnoirs au coin de la rue des Rats et de la rue de la Bûcherie. Mais comme on ne te fit pas longtemps crédit, il fallut bien que tu songeasses à te garnir d'argent. Et ma lingère de la rue Pointe-Fortefoin, oh, tu n'y pensais même plus. Elle pleura ta disparition au moins 15 jours. Et toi, tu la remplaças bientôt dans les circonstances que voici. La nécessité t'y poussant, tu te rappelas les anciens talents et tu te mis à soulager les masques des passants de tout ce qui se trouvait renfermé, tabatière, bourse et mouchoirs, bonbonnière et boîtes à mouches. Et tu opérais si adroitement que tu encourus l'admiration d'un grand escogriffe qui s'appelait Galichon et qui, t'ayant vu travailler, t'arrêta au coin de la rue Galande en te demandant « La bourse ou la vie ?» Eh bien, tu n'auras pas ma bourse que lorsque tu auras pris ma vie, lui répondis-tu. Et tu mis l'épée à la main, une petite épée que tu avais volée la veille à un garde français qui comptait fleurette à une bouquetière de la rue Poupée. Le grand escogriffe te félicita de ton courage et puis de ton adresse, et il te pria de le suivre chez lui, rue du Bout du Monde, aujourd'hui rue Saint-Sauveur. Il te conta en chemin qu'il cherchait un associé et que tu ferais son affaire. Il te dit encore qu'il avait femme et que cette femme avait une sœur fort avenante et que cette sœur brillerait de t'épouser. Elle brûlerait de t'épouser vraiment quand elle te connaîtrait. Alors tu te laissas faire, la cérémonie se passa comme elle avait été prévue, on ne fit venir ni notaire ni prêtre. Cette liaison ne dura pas 6 mois, attendu que Galichon, sa femme et sa belle-sœur prenaient le chemin des galères. Et moi? Oh, toi, tu les avais déjà lâchés, tu trichais dans les académies. « Oh, quelle conduite !» fit Théophraste navré. Mais bientôt tu fus brûlé dans les académies et réduit à te servir de tes expédients les sergents recruteurs. Tu sais de quelle façon recruter les soldats à cette époque. C'était simple, les sergents recruteurs auxquels on amenait de bons jeunes gens sans malice ou d'affreux gardements sans foi, ni noueux ni nieux. Les sergents recruteurs, dis-je, enivraient tout le monde. Et le lendemain matin, quand on se réveillait, dégrisé, on avait signé, et il fallait partir pour la guerre. Tu fournissais les sergents recruteurs et tu rabattais pour eux. Mais tu en fus puni. Ayant un jour amené deux jeunes gens à tes sergents au cabaret des Amoureux de Montreuil, ayant fait la fête avec eux, tu te réveilles le lendemain ayant signé toi aussi. Tu étais le recruteur recruté. M'en plains pas, j'ai toujours eu de goût pour l'armée, dit Teofraste. Et si j'ai signé mon engagement, ceci prouve encore que je savais écrire. Tu diras cela à mes historiens de ma part. Mais il était 7 heures. Adolphe interrompit là le cours de son récit. Ils reprirent le chemin de la villa après une solide poignée de main, Monsieur Lopard. Ils gravirent le coteau. Avant d'en atteindre le faîte, Théophrase demanda: Dis-moi, Adolphe, je suis curieux de savoir comment j'étais fait. J'étais un bel homme, n'est-ce pas? Un grand, fort bel homme. Oui, ainsi te représente-t-on au théâtre dans la pièce de Monsieur d'Ennery. Mais au contraire, tu étais, selon le poète Graval, un homme qui t'a bien connu et qui a chanté ta gloire. Oui, da. Mais ta gloire sanglante. Tu étais brun, sec, maigre, petit, mais grand par le courage. Entreprenant, hardi, robuste, alerte, adroit. Mais tu m'as point dit comment tu as eu ce portrait de la rue Guénégaud. Ben, c'est la copie d'une photographie de Nadar. Théophraste ne dissimula pas son étonnement. Nadar m'a donc photographié? Oui, parfaitement. Il a photographié un masque de cire qui devait te ressembler, puisque cette cire t'a été appliquée par ordre du régent sur le visage. Nadar a photographié cette cire le 17 janvier 1859. Et où se trouvait le masque de cire? Ah, au château de Saint-Germain. Oh, je veux le voir! S'écria Théophrase, je veux le voir, le toucher. Nous irons demain à Saint-Germain. À ce moment, Marceline, en galant déshabillé, leur ouvrit avec un sourire les portes de la villa Felot d'Azur. Je publie ici un passage intégral des mémoires de Théophraste. Mon désir était grand, écrit Théophraste, de voir, de toucher cette cire que l'on avait appliquée sur ma peau. Ce désir grandit encore, si possible, quand Adolphe fut entré dans certains détails. Il me dit que c'était depuis le 25 avril 1849 que le château de Saint-Germain-en-Laye possédait le portrait de cire du fameux Cartouche. Il paraît que ce portrait fut donné par un abbé niaillier, héritier sous bénéfice d'inventaire d'un monsieur Richaud, ancien officier de la maison du roi Louis XVI. Monsieur Richaud, décédé à Saint-Germain, possédait depuis de longues années ce portrait, d'autant plus précieux qu'il avait appartenu à la famille royale. Ce buste en cire aurait donc été, d'ordre du régent, moulé par un artiste florentin sur ma figure, quelques jours avant mon supplice. Il est coiffé, m'a affirmé Monsieur Le Camus, d'une toque de laine ou de feutre grossier, vêtu d'une chemise de grosse toile recouverte de suie, d'un gilet, d'une veste et d'un pourpoint de camelot noir. Mais ce que Monsieur Le Camus affirmait encore et qui était plus extraordinaire, c'était que les cheveux et la moustache auraient été coupés sur mon cadavre et recollés sur la cire. Le tout devait être renfermé dans un cadre en bois doré, large et profond, d'un fort joli travail. Une glace de Venise portait-je le portrait, et on remarquerait encore sur le cadre la trace de l'écusson aux armes de France. Je demandai à Adolphe d'où il tenait des détails aussi précis. Il me répondit que c'était là, depuis 2 jours, le résultat de ses recherches dans les rayons les plus oubliés des plus illustres bibliothèques. mes cheveux, ma moustache, mes habits, tout moi d'il y a 200 ans. Eh bien, malgré l'horreur qu'auraient dû m'inspirer les répliques d'un homme, les reliques d'un homme qui avait commis autant de crimes, je ne me tenais point impatient de les voir, de les toucher. Ô mystère de la nature, abîme profond des âmes, précipice vertigineux des cœurs, moi, Théophraste Longuet, dont le nom est synonyme d'honneur, moi qui ai toujours peur du sang répandu, je chérissais déjà dans ma pensée les restes maudits du grand brigand de la terre. Et quand j'eus reconquis, après la scène du portrait de la rue Guénégaud, l'empire de mes sens, et que j'examinais ce qui se passait au fond de moi vis-à-vis de Cartouche, je fus d'abord tout étonné de ne point y trouver un désespoir assez certain pour qu'il me dégoûtât de la vie et me reportât pour la seconde fois dans la tombe. Non, non, je ne songeais point à supprimer cette enveloppe à face d'honnête homme qui était étiquetée fin XIXe siècle, Théophraste Longuet, et qui enfermait et qui promenait l'âme de Cartouche. Certes, dans le premier moment d'une telle révélation, je ne pus que m'évanouir, et c'est du reste ce que je fis. Ensuite, je supplie Adolphe de ne rien dire à ma femme. Je connais Marceline, elle a une telle peur des voleurs, surtout la nuit, qu'elle aurait plus voulu coucher avec moi. Donc, je ne trouvais point au fond de moi un sentiment de désespoir absolu, mais une grande pitié, une vraie pitié attendrie, qui non seulement était capable de me faire pleurer sur le sort de moi, Théophraste, mais qui me portait aussi à plaindre Cartouche. Je me demandais en effet lequel était le plus à la noce de l'honnête Théophraste, traînant devant lui le brigand Cartouche ou du brigand Cartouche enfermé dedans l'honnête Théophraste. Il faut tâcher de s'entendre, dis-je tout haut. Je n'avais pas plutôt prononcé cette phrase, qui me paraît bizarre, mais qui traduisait bien le double et cependant unique préoccupation de mon âme, que je ne pus retenir un cri. Une grande lumière se faisait en moi, en même temps que je me rappelais la théorie de la réincarnation que m'avait exposée M. Le Camus. Il rattachait la réincarnation à l'évolution nécessaire des choses et des individus, ce qui n'est rien d'autre que le transformisme, cher à la science officielle, et ne disait-il point que l'âme se réincarne pour évoluer selon la règle vers le meilleur? C'est la montée progressive de l'être dont nous avait parlé avec une emphase si charmante, monsieur le commissaire Mifroid. Eh bien, la loi naturelle, que certains appellent Dieu, n'avait trouvé sur la terre rien de plus honnête que le corps de Théophraste Longuet, pour faire évoluer vers le meilleur l'âme criminelle de Cartouche. J'avouerai que lorsque cette idée se fut ancrée en moi, au lieu du désespoir primitif qui me conduisit à l'évanouissement, je me sentis pénétré d'un sentiment qui ressemblait presque à de l'orgueil. J'étais chargé par le destin du monde, moi l'humble mais honnête Théophraste, de régénérer en idéale splendeur l'âme de ténèbres et de sang de Louis-Dominique Cartouche, dit l'enfant. J'acceptais de bonne volonté, puisque je ne pouvais faire autrement, cette tâche inattendue, et je me mis tout de suite sur mes gardes. Ainsi, je ne répétais point cette phrase qui s'adressait aux deux êtres qui habitaient en moi, « Il va falloir s'entendre ». Mais j'ordonnais tout de suite à Cartouche d'obéir à Théophraste, et je me promettais de lui mener la vie si dure que je ne pus m'empêcher de dire en souriant « Oh, ce pauvre Cartouche !» J'avais chargé M. Le Cavenu de se documenter à fond sur Louis-Dominique, de telle sorte que je n'ignorasse rien de ce qu'on pouvait savoir de son existence. Avec ce que ma plume noire et mon souvenir m'en apprendraient moi-même, je pensais justement que je ressusciterais tout à fait en esprit l'autre, ce qui me permettrait d'agir en conséquence. Je fis part de mes réflexions à Adolphe, qui les approuva, tout en me mettant en garde contre la tendance que j'avais à séparer Théophrase de Cartouche. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut qu'un, me disait-il. Tu as les instincts de Théophrase, c'est-à-dire des maraîchers, des jardiniers, des maîtres jardiniers, de la Ferté-sous-Jouarre. Ces instincts sont bons, mais tu as l'âme de Cartouche, qui est détestable. Prends garde, la guerre est déclarée. Il s'agit de savoir qui vaincra de l'âme d'autrefois ou des instincts d'aujourd'hui. Je lui demandai si vraiment l'âme de Cartouche était tout à fait détestable, ce qui me peinait, et je fus heureux d'apprendre qu'elle avait quelques bons côtés. Cartouche, me dit-il, avait expressément défendu à ses hommes de tuer ou même de blesser les passants sans raison. Quand il opérait dans Paris avec quelqu'une de ses troupes et que ses gens lui amenaient les victimes, il leur parlait avec beaucoup de politesse et de douceur, leur faisant toujours rendre une partie du butin. Quelquefois, les choses se bornaient à un simple échange d'habits. Et quand il rencontrait dans les poches de l'habit ainsi échangé des lettres ou des portraits, il courait après leur ex-propriétaire pour les rendre, leur souhaitant une bonne nuit et leur donnant un mot de passe. C'était une maxime de cet homme extraordinaire qu'un individu ne devait pas être volé deux fois dans la même nuit, ni trop durement traité pour ne pas dégoûter les Parisiens de sortir le soir. Ainsi, il ne voulait point qu'on assassinât sans raison. Cet homme n'était donc point foncièrement méchant. Il y a de belles crapules aujourd'hui qui tuent uniquement pour le plaisir sur les boulevards extérieurs. Je regrette cependant que pour son propre compte, Cartouche ait eu dans sa vie 150 raisons d'assassiner ses contemporains. Mais revenons au masque de cire. Nous venions de descendre, mon ami Adolphe et moi, en gare de Saint-Germain-en-Laye, quand je crus apercevoir dans un groupe de voyageurs une figure qui ne m'était pas inconnue. Mû par un sentiment dont je ne fus point tout à fait maître, je me précipitai vers ce groupe, mais la figure avait disparu. Et où donc avais-je vu cette figure-là, pensais-je? Elle m'est essentiellement antipathique. Adolphe me demanda la raison de mon agitation, et je me souvins tout à coup. Eh, mais je jurerais, m'écriai-je, que c'est M. Petitot, le professeur d'italien du dessus. Mais qu'est-ce que M. Petitot vient faire à Saint-Germain? Oh, je lui souhaite de ne point se jeter dans mes jambes. Mais que t'a-t-il donc fait? Demanda Adolphe. Oh, rien, seulement. S'il se jette dans mes jambes, je te jure que je lui coupe les oreilles. Et vous savez, je l'aurais fait comme je le disais. Nous allâmes donc, sans plus penser à M. Petitot, au château. C'est un merveilleux château que l'on rebâtit tel qu'il fut sous François Ier. Nous entrâmes dans le musée, et alors je regrettais que ce château, qui sait toute l'histoire de France, où se déroula la longue et merveilleuse aventure de nos rois, je regrettais que ces murs, qui eussent dû servir de cadre à notre passé, même si on n'avait rien mis dedans, servissent aujourd'hui de bazar pour plâtre romain, armes préhistoriques, dents d'éléphant et bas-reliefs de l'arc de Constantin. Ma colère devint de la rage quand j'appris que le masque de cire de Cartouche ne s'y trouvait pas. Je venais d'enfoncer traîtreusement le bout de mon ombrelle verte dans l'œil, que je crevais d'un légionnaire de plâtre, lorsqu'un vieux gardien vint à nous et nous dit qu'il croyait bien savoir qu'il y avait un masque de cire de Cartouche à Saint-Germain, qui se trouvait, pensait-il, dans la bibliothèque, mais que celle-ci était fermée depuis 8 jours pour cause de réparation. Je donnai 10 sous à ce brave homme, et nous nous en fûmes vers la terrasse, nous promettant de revenir en temps utile, car plus le masque de cire s'éloignait, plus je brûlais de le toucher. Il faisait beau, nous nous enfonçâmes dans la forêt, une allée magnifique nous conduisit au bâtiment des loges, qui furent construits en face au château de Saint-Germain, sur le désir de la reine Anne d'Autriche. Comme nous atteignions l'angle gauche de la muraille, il me sembla reconnaître encore, se glissant dans un fourré, la silhouette abominable et la figure repoussante de M. Petitot. Adolphe prétendit que je m'étais trompé.